Vous écoutez, on lit pour vous.
Nommer et combattre un système d'immigration colonialiste et raciste. Un texte de Karol Jaroszewski, paru le 17 novembre 2024 dans Les nouveaux cahiers du socialisme. Outre la régularisation des personnes sans papier, il faut obtenir une refonte du système d'immigration. Au lieu de produire vulnérabilité et discrimination, il s'agit d'accueillir les personnes migrantes et immigrantes comme des êtres humains et comme des citoyennes à part entière de quelque région du monde qu'elles proviennent. Depuis quelques mois, l'attention médiatique et politique sur les personnes immigrantes et migrantes, aiguisée par de petites phrases assassines qui les rendent responsables de tous nos maux, et en particulier de la crise du logement, de celle de l'éducation et du déclin du français, s'est focalisée sur les travailleuses et travailleurs temporaires, dont le nombre atteint les 2,2 millions au Canada, dont 528 000 au Québec, selon Statistique Canada, au quatrième trimestre de 2023. Les chiffres auraient fait sursauter l'automne dernier Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, qui présentait sa planification des seuils d'immigration qui tient compte uniquement des entrées au pays avec la résidence permanente, ce qu'on appelle couramment l'immigration économique. Cependant, comme le souligne en février la journaliste du Devoir Sarah Champagne, Québec a une responsabilité indéniable dans la situation car, quoi qu'en dise le gouvernement caquiste de François Legault, il a ouvert largement la porte. C'est lui en effet qui a demandé au fédéral que les employeurs du Québec qui voulaient recourir au programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, obtiennent un traitement simplifié de leur demande, ce qui veut dire que ces employeurs n'ont plus à faire la démonstration qu'ils ont cherché à recruter quelqu'un localement. Le résultat est qu'en 2023, le nombre d'entrées par PTET, 58 885, a dépassé au Québec le nombre d'entrées avec un statut de résident permanent, 52 790. Or, les travailleuses et travailleurs du PTET disposent seulement d'un permis temporaire qui, pour les emplois peu qualifiés, en dessous de 26 $ l'heure, ne leur donne pas de voie d'accès à la résidence permanente. En outre, ce permis temporaire de travail est fermé, c'est-à-dire attaché à un employeur unique. Si celui-ci décide de ne pas les garder, ils ou elles doivent rentrer dans leur pays ou se trouver un autre employeur, ce qui, en filigrane, veut dire vivre sans statut, sans papier, dans une situation extrêmement difficile. Sarah Champagne rapporte des témoignages de travailleurs licenciés à peine arrivés au Québec avec leur famille, alors qu'ils ont tout vendu dans leur pays d'origine, la Tunisie et le Maroc en l'occurrence, pour venir y travailler. Je voudrais que personne ne fasse l'erreur de quitter son pays avec un permis fermé, indique l'un d'eux. Un autre travailleur déplore : juridiquement, tout est bien propre. On fait un contrat. Mais on n'a pas sensibilisé les gens aux risques qu'ils vont prendre. Et un troisième souligne : le gouvernement sait ce qui arrive avec les permis fermés et il ferme les yeux. Les batailles de chiffres sur les seuils d'immigration permanente que se sont livrés les partis politiques l'automne dernier semblent bien anecdotiques devant ces témoignages qui renvoient à des enjeux structurels du système d'immigration canadien. Au-delà des chiffres, on ne peut pas comprendre l'emballement pour le recrutement sur permis temporaire sans resituer le phénomène. D'abord, dans l'héritage colonialiste raciste dans lequel sont ancrées ces mesures, puis dans le changement de paradigme intervenu depuis les années 2000 en matière de politique d'accès à la résidence permanente, lequel a mis l'accent sur l'utilité économique de l'immigration et a réactualisé la colonialité du pouvoir et le racisme systémique. Pour éclairer ce fondement colonialiste-raciste, il est nécessaire de croiser des connaissances portant sur les principales lois régissant l'accès à la citoyenneté pour les personnes immigrantes, ainsi que sur les principaux statuts d'immigration. Grosso modo, au Canada, la gestion et le contrôle des flux de main-d'œuvre internationale repose d'un côté sur une voie d'accès vers la résidence permanente et donc vers une forme de citoyenneté, surtout utilisée jusqu'il y a 30 à 40 ans par des Européens ou des francophones recherchés par le Québec, comme le montrent les données des recensements de Statistiques Canada, et, d'un autre côté, sur des programmes de permis temporaires. Les permis temporaires structurés par les rapports Nord-Sud. Outre les permis pour les étudiantes et étudiants venant faire leurs études ou profitant du permis vacances-travail réservé aux pays du Nord, les programmes de permis temporaires se divisent en deux principaux volets. 1. Le programme de mobilité internationale, qui inclut différents cas de figure, dont le déplacement de salariés entre filiales, les jeunes de certains pays signataires d'accords avec le Canada ou des situations spécifiques qui sont utilisées, dans bien des cas, pour des emplois considérés comme hautement qualifiés et principalement pourvus par des travailleurs du Nord. 2. Les programmes des travailleurs étrangers temporaires, PTET, Programme des travailleurs agricoles saisonniers, PTAS et Programme des aides familiaux résidents, PAFR, qui s'adresse essentiellement aux populations du Sud, car ces programmes dépendent d'accords bilatéraux entre le Canada et certains pays comme les Philippines, le Mexique et le Guatemala. Comme déjà mentionné, les permis sont particulièrement restrictifs ou dits fermés parce qu'ils sont émis pour un employeur unique, qui a le pouvoir de le rompre unilatéralement et donc de faire perdre le statut migratoire. Jusqu'en 2002, ces programmes restrictifs de travail temporaire étaient principalement destinés à apporter de la main-d'œuvre saisonnière dans l'agriculture ou à fournir des aides familiales. Celles-ci, car il s'agit majoritairement de femmes, étaient les seules à avoir accès à la résidence permanente, mais devaient cependant attendre avant de pouvoir faire la demande et se font, entre-temps durement exploitées, d'autant plus que, jusqu'en 2014, elles étaient obligées de vivre chez le particulier employeur qui abusait fréquemment de la situation. Ce système de migration peut être qualifié d'héritage colonial. Il a en effet été construit après l'abolition en 1962 de l'acte d'immigration adopté en 1910 par le Canada et qui interdisait l'immigration aux personnes déclarées comme inadaptées au climat ou aux besoins du Canada, bloquant dans les faits la plupart des immigrants non blancs. Deux mesures significatives ont été prises après cette abolition. D'une part, en 1966, le Canada adopte un programme pilote destiné à faire venir en Ontario de la main-d'œuvre jamaïcaine de Porto Rico pour répondre aux besoins des fermiers, tout en s'assurant que ces personnes ne resteraient pas au pays. Depuis, la démarche s'est élargie pour déboucher sur les PTAS, PTET et PAFR. De tels programmes ne sont pas spécifiques au Canada. d'autres pays du Nord recourent à la main-d'œuvre du Sud selon le même schéma. Ces programmes bilatéraux ont été dénoncés à maintes reprises à l'issue de travaux de recherche pour leur sexisme et racisme, car ils servent à mettre à la disposition des employeurs une force de travail, physique, émotionnelle, etc., choisie selon son sexe et sa nationalité, ces critères servant à attribuer des compétences auxquelles la main-d'œuvre doit se conformer. Au Canada, cette forme d'exploitation genrée et racisée a connu un essor particulièrement important à partir de 2002, lorsque le PTET, d'abord réservé aux emplois qualifiés ou à certains emplois marqués par la rareté de la main-d'œuvre, a été élargi aux emplois dits peu spécialisés, ceux qui connaissent la croissance la plus importante depuis. Dès 2008, si on inclut les étudiantes et étudiants étrangers qui sont de plus en plus nombreux à venir des pays du Sud global, mais qui appartiennent dès lors à des classes sociales ayant les moyens de payer les frais d'inscription, le nombre d'entrées au Canada de personnes migrantes ayant un statut temporaire a dépassé le nombre d'entrées par la résidence permanente. Depuis, la croissance des entrées de travailleuses et travailleurs temporaires ne s'est pas démentie, et ce, malgré différentes interventions, dont celle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, qui a clairement exprimé dès 2012 que les programmes délivrant un permis fermé entretiennent la discrimination systémique à l'égard des populations migrantes en raison de leur sexe, de leur langue, de leur condition sociale, de leur origine et de leur race. La majorité des personnes occupant des emplois dits « peu spécialisés » proviennent du Guatemala, du Mexique et des Philippines. Le recours à ces programmes, destinés à exploiter mais aussi à contrôler les flux de main-d'œuvre venant des pays du Sud global, a été facilité dans l'ensemble du Canada depuis le gouvernement Harper, qui a simplifié les démarches des employeurs pour obtenir des autorisations à procéder à de tels recrutements ou qui les en a dispensés dans certaines conditions. Au Québec, le gouvernement Legault a continué dans cette lignée. Vous écoutez « Nommer et combattre un système d'immigration colonialiste et raciste » un texte de Carole Yerochevski, paru le 17 novembre 2024 dans Les Nouveaux Cahiers du Socialisme. La dénaturation de la voie d'accès à la résidence permanente. D'autre part, en 1967, le système de points a été introduit comme voie d'accès à la résidence permanente. Selon Dufour et Forcier, la création de ce système de points s'inscrit dans la volonté de réduire le regroupement familial introduisant des travailleurs peu qualifiés et d'augmenter la part d'immigration économique et qualifiée. Ce caractère potentiellement discriminatoire à l'égard des personnes provenant du Sud global, moins massivement qualifiées à l'époque, sera accentué à partir de l'ère Harper. Les gouvernements suivants vont en effet renforcer l'immigration économique qualifiée au détriment du regroupement familial, processus qui sera même gelé pendant 2 ans, et au détriment des personnes réfugiées et demandeuses d'asile, dont la figure sera en quelque sorte criminalisée soit parce qu'elles seront considérées comme des personnes cherchant à profiter du système de protection sociale, soit comme de faux réfugiés menaçant la sécurité nationale. Parallèlement, alors que les personnes issues des pays du Sud global vont progressivement constituer, après les réformes des années 1960, la majorité des candidats par rapport aux Européens, empruntant la voie de la résidence permanente, le système de points connaît deux modifications majeures. Celles-ci restreignent l'accès aux personnes dont la déclaration d'intérêt, c'est-à-dire les postes pour lesquels elles se présentent, correspond aux besoins à court terme des employeurs, qui deviennent en quelque sorte les maîtres d'œuvre d'un processus d'immigration qui se privatise. Il s'agit là d'un changement de paradigme amorcé au début des années 2000 qui dénature la voie d'accès à la citoyenneté en réduisant l'être humain, jusqu'alors considéré dans sa globalité, à son intérêt économique, c'est-à-dire à son utilité en termes de main-d'œuvre. Cette utilité économique consiste le plus souvent, au-delà des discours sur la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée, à combler à moindre coût les postes délaissés en raison de leur salaire insuffisant et de leurs difficiles conditions de travail. À titre d'exemple, environ la moitié des permis temporaires le sont en réalité pour des emplois peu spécialisés. Le permis fermé, forme moderne d'esclavage. Tandis que se déploient les discours qui transforment l'immigration sous ses différentes formes en bouc émissaire, on comprend mieux l'accent mis sur le travail temporaire et en particulier sur les programmes de travail temporaire délivrant un permis fermé. Objet de toutes les attentions pour les employeurs, ces programmes sont profondément rejetés par nombre d'organisations communautaires et syndicales qui demandent la suppression du permis de travail fermé au profit d'un permis ouvert et d'un statut permanent. Elles dénoncent ce système d'immigration à deux vitesses, source d'abus, de sous-salaires et d'heures supplémentaires non payées, de violences et de harcèlement psychologique et sexuel, et d'accidents du travail. Un rapporteur spécial de l'ONU, Tomoya Obokata, venu au Canada en septembre dernier pour enquêter à ce sujet, a clairement conclu que le permis fermé ouvrait la porte à des formes d'esclavage moderne. Et pour cause. Le statut migratoire dégradé agit auprès des employeurs, qu'on le veuille ou non, comme un signal stigmatisant celles et ceux qui les occupent, les épinglant comme des sous-citoyennes et sous-citoyens. Un système qui produit vulnérabilité et perte de statut. Depuis la visite du rapporteur de l'ONU, le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de la Chambre des communes s'est saisi de ce sujet ainsi que de celui des personnes sans papiers, très nombreuses au Canada, entre 500 et 600 000, selon les estimations, en raison de ces politiques. Car ce système d'immigration produit à grande échelle des pertes de statut. Si la vie des employeurs a été simplifiée, celle des détenteurs de permis temporaires fermés ne l'a été en aucun cas, malgré l'ouverture, formellement, de l'accès à la résidence permanente. En pratique, les obstacles sont si nombreux que très peu de personnes titulaires du permis fermé arrivent à obtenir le statut de résident permanent. 1 sur 14, entre 2015 et 2022 au Canada. Cette proportion n'est qu'une moyenne. Au Québec, comme mentionné, les personnes occupant des emplois peu spécialisés continuent, à quelques exceptions près, de se voir interdire l'accès à la résidence permanente ou se heurtent à l'insuffisance des moyens disponibles pour la francisation et à la difficulté des tests de français, ce que le gouvernement québécois a fini par reconnaître. Par ailleurs, nombre de personnes fuyant des employeurs abusifs ne réussissent pas à obtenir ce permis ouvert pour personnes vulnérables prévu par Ottawa dans les cas d'abus, car les démarches sont extrêmement lourdes, où elle n'arrive pas à obtenir de nouveau un permis fermé à l'issue de la durée d'un an accordée avec ce permis ouvert. Outre la perte de statut en raison de la nature même des politiques d'immigration qui institutionnalisent la précarité comme moyen de gérer les flux de main-d'œuvre en provenance du Sud global, on peut aussi se retrouver sans papier, quoique dans une moindre mesure, malgré ce que laisse croire la large couverture médiatique du chemin Roxham, à cause de la non-effectivité ou de l'insuffisance des politiques humanitaires qui accordent trop souvent au compte-gouttes la résidence permanente et qui la refusent pour des raisons aberrantes. On peut voir à cet effet le documentaire « L'audience » où le juge refuse le statut de réfugié à un couple avec enfant, considérant qu'il « magasine le pays dans lequel il veut vivre ». C'est sans compter les restrictions apportées à des programmes comme le parrainage collectif, victime de son engouement auprès d'une population prête à accompagner financièrement pendant un an après leur arrivée au Canada des personnes qui ont auparavant obtenu le statut de réfugié. Il faut aussi rajouter au tableau les quotas annuels imposés par Québec, qui restreint même les entrées par regroupement familial et retarde du coup la réunion des familles des années durant, des conséquences guère différentes de celles résultant de la politique « tolérance zéro » édictée par Trump aux États-Unis envers les demandeurs d'asile provenant du Mexique et qui avait mené à séparer près de 4000 enfants de leurs parents. Vous écoutez « Nommer et combattre un système d'immigration colonialiste et raciste », un texte de Carole Yerochevski, paru le 17 novembre 2024, dans les nouveaux cahiers du socialisme. Les annonces début novembre des gouvernements fédéral et québécois sur la planification de l'immigration n'ont pas montré de volonté de corriger ces politiques qui perpétuent la domination envers les travailleuses et travailleurs du Sud global. Cependant, la ministre de l'Immigration du Québec n'a pu éviter de parler de ces travailleurs temporaires et de l'ampleur du phénomène qui avait été révélé par des médias quelques semaines avant l'annonce de la planification. Elle a ainsi indiqué vouloir mettre une condition de maîtrise minimale du français à l'oral pour obtenir un renouvellement au bout de 3 ans d'un permis temporaire, ce qui a paru totalement indécent aux yeux des organisations syndicales et communautaires œuvrant avec les personnes migrantes, ou pour faire respecter leurs droits humains, puisqu'on ne leur donne même pas la possibilité de s'installer au Québec avec un statut permanent. Cela semble également ingérable par les employeurs, qui devraient assurer des heures de français sur les lieux de travail, alors que bon nombre d'entre eux ne respectent même pas le droit du travail. Le 14 décembre dernier, Mark Miller, ministre fédéral de l'Immigration, a donné une entrevue au Globe and Mail où il rappelait la promesse faite par Trudeau il y a déjà 2 ans concernant l'adoption d'un programme de régularisation de grande ampleur. Cependant, l'entrevue montre que les objectifs seraient restreints, là encore, aux secteurs d'activité pour lesquels les immigrantes et immigrants sont économiquement utiles, comme la construction et la santé, où ils sont jugés indispensables, et le processus serait très long, s'étirant jusqu'en 2026, pour des raisons explicitées dans l'entrevue, qui se réfère à la montée d'un sentiment anti-immigrant parmi la population, un sentiment que les dirigeants politiques sont en réalité en train d'amplifier, si ce n'est de créer. Or, les organisations communautaires ou syndicales qui se mobilisent pour obtenir la régularisation des personnes sans papier demandent de leur côté un programme complet et véritablement inclusif. Longtemps, face aux politiques discriminatoires d'immigration et à leurs conséquences parfois lourdes sur l'état physique et mental des personnes, des organismes, comme le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, ont œuvré de façon assez isolée durant leurs premières années, ne recevant un soutien que d'autres organismes communautaires, puis, petit à petit, d'organisations syndicales. Mais avec la pandémie, qui a jeté une lumière crue sur toutes ces personnes migrantes, précaires ou sans papiers, qui ont dû continuer à travailler en s'exposant à l'épidémie, y perdant parfois la vie, ces organisations de travailleuses et travailleurs migrants ont acquis une visibilité et une reconnaissance indéniables, tandis que le sort de ces personnes alors qualifiées d'essentielles n'a pu rester dans l'ombre, et ce, d'autant moins qu'elles ont été les premières à se mobiliser pour faire reconnaître leurs droits. À présent, au Québec en particulier, les organisations syndicales sont impliquées dans la campagne pour la régularisation des personnes sans papier, qui rassemble une trentaine d'organismes communautaires d'envergure provinciale et même internationale. Cette coalition, qui a élargi ses objectifs, a tenu, le 15 février dernier, une rencontre stratégique pour déterminer ses priorités et stratégies afin de ne plus être seulement réactive. Au cœur des discussions, il y a la nécessité de déconstruire les discours anti-immigrants et de mettre fin à ce système d'immigration discriminatoire et raciste, tout en continuant à réclamer haut et fort un programme de régularisation complet et inclusif. Un tournant dans la mobilisation pour la régularisation. La mobilisation se trouve en effet à un tournant. Un bras de fer s'est véritablement engagé avec les classes dirigeantes qui cherchent sans pudeur, à travers les responsables politiques et la montée des discours anti-immigrants, des appuis ou des voix jusqu'à l'extrême droite. Ce n'est pas pour rien que le patronat se montre quasi inflexible à maintenir le système du permis fermé. C'est tout un modèle économique qu'il s'agit de préserver et qui repose sur une main-d'œuvre flexible et à bas salaire, permettant, par exemple, de vendre les fruits et légumes cultivés au Québec moins chers ou de faire de la province un espace d'entreprise logistique à moindre coût. Si tant le gouvernement fédéral que celui du Québec se défendent de poursuivre des objectifs racistes ou inconsidérés, il n'en reste pas moins que transformer les personnes migrantes et immigrantes en bouc émissaire est un moyen de tenter de les isoler, de leur faire perdre un pouvoir de négociation qu'elles ont durement acquis ces dernières années. L'issue du bras de fer dépendra des mobilisations en cours et donc aussi de l'engagement des syndicats, notamment au Québec, mais pas seulement. Feront-ils de ces enjeux une campagne prioritaire? En se donnant les moyens d'informer et de former les syndicats locaux à connaître et à faire valoir les droits des travailleuses et travailleurs migrants qu'ils retrouvent de plus en plus souvent dans leur entreprise? À l'heure des petites et grandes phrases, transformant les personnes migrantes et immigrantes en bouc émissaire de toutes les faillites des responsables politiques en matière d'inflation et de coût de la vie, de logement et d'accroissement des inégalités, l'enjeu dépasse celui de négocier quelques avancées ou de limiter les reculs. Il est d'opposer une autre vision du monde, un autre récit qui favorise de larges alliances entre les différents mouvements sociaux et organismes communautaires luttant pour le logement social, contre la pauvreté, contre le racisme, etc. Et pour ce faire, il est fondamental de mettre à nu les ressorts colonialistes et racistes sur lesquels reposent les politiques d'immigration, comme il est nécessaire de montrer en quoi la crise du logement et la spéculation immobilière représentent, comme l'accroissement des inégalités, un des moteurs du processus d'accumulation capitaliste. C'était « Nommer et combattre un système d'immigration colonialiste et raciste », un texte de Carole Hieroszewski, paru le 17 novembre 2024 dans « Les nouveaux cahiers du socialisme ».
Aide médicale à mourir et troubles mentaux, exploration des défis, des préoccupations et des enjeux éthiques associés. Un texte de Marie-Alexandra Gagné, paru le 4 décembre 2023 dans la Revue canadienne de bioéthique. Mise en contexte. Incarnant le respect de la dignité humaine et de l'autonomie décisionnelle, l'aide médicale à mourir, AMM, est un soin qui a redéfini notre vision du mourir au sein de la société québécoise, puisqu'il correspond aux valeurs et aux besoins de nombreuses personnes. Jusqu'à présent, l'AMM a fait l'objet d'une acceptabilité élevée à travers la province. Or, le nombre croissant d'AMM octroyés au Québec suscite énormément d'émoi à l'heure actuelle, spécialement à l'aube de l'élargissement de ces critères d'éligibilité. À ce propos, certains évoquent les risques de dérive ou de pente glissante. En l'absence de données scientifiques suffisantes sur le sujet, il est important de ne pas céder aux scénarios catastrophes ou aux généralisations hâtives. Cependant, il est nécessaire de reconnaître que des risques objectifs et anticipables, autant au niveau clinique, social qu'éthique, doivent être réfléchis en amont. En 2021, suivant le jugement Truchon contre procureur général du Canada, le critère de « mort raisonnablement prévisible » au fédéral et celui de « fin de vie » au provincial ont été invalidés, rendant accessible l'AMM aux personnes qui ne sont pas en fin de vie. Ce changement législatif a techniquement rendu éligible l'AMM pour les personnes dont le trouble mental est le seul problème médical invoqué. AMM, TM-SP-M1. En raison de la complexité inhérente à l'octroi d'un tel soin, le gouvernement fédéral a demandé un moratoire de 2 ans, prolongé d'une année en 2022, afin de réfléchir de manière approfondie aux enjeux qui en découlent. Ce moratoire prendra fin le 17 mars 2024, permettant aux personnes dont le TMSPMI d'avoir accès à l'AMM s'ils répondent à tous les autres critères d'éligibilité. Un débat caractérisé par la complexité et l'ambiguïté. Bien que l'AMM soit de mieux en mieux intégrée dans le continuum des soins palliatifs et de fin de vie, des questionnements spécifiques se posent lorsqu'il s'agit d'octroyer une AMM TM-SPMI. Afin d'identifier les principales préoccupations en matière de AMM TM-SPMI, en amont de ce changement législatif, le gouvernement a mandaté un groupe d'experts afin d'analyser les enjeux qui s'y rattachent et d'émettre des recommandations. 4 préoccupations majeures émergent de leur analyse. 1. L'ambiguïté quant au caractère irréversible ou incurable des troubles de santé mentale. 2. La difficulté à distinguer un risque suicidaire d'une demande d'AMM raisonnée. 3. la difficulté d'évaluer l'aptitude à consentir chez certaines personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Et 4. La présence de vulnérabilités structurelles. Ces préoccupations sont d'ailleurs cohérentes avec celles identifiées dans la littérature scientifique jusqu'à présent et seront rigoureusement approfondies par les auteurs dans le cadre de ce numéro de la revue. L'hétérogénéité et la sensibilité de ces enjeux mettent en lumière le caractère particulièrement subjectif de l'AMM, TM-SPMI, et traduisent la difficulté de déterminer s'il s'agit d'un soin cliniquement, mais également éthiquement approprié pour la personne qui en fait la demande. Depuis l'invalidation du critère de fin de vie, une crainte partagée par plusieurs est que l'AMM puisse potentiellement être octroyée à défaut de meilleures conditions socio-économiques, d'accessibilité à des ressources de soutien, ou encore pour contrer l'isolement social. D'emblée, précisons que l'AMM est un soin octroyé pour apaiser les souffrances causées par une maladie et non pas celles générées par des conditions socio-économiques ou psychosociales sous-optimales. À l'inverse, nous ne pouvons nier que les inégalités sociales de santé ont des impacts négatifs significatifs sur la santé des individus. Ces préoccupations étant de nature systémique, des actions gouvernementales concertées ainsi que des ressources, autant humaines que matérielles, sont nécessaires pour avoir un impact positif sur ces problèmes sociétaux et réduire les vulnérabilités qui y sont rattachées. Bien que ces enjeux ne soient pas objectivement irrémédiables ni irréversibles, ce qui contribue à la complexité éthique du débat, des changements d'une telle ampleur sont difficilement envisageables à court terme. En l'absence de ressources suffisantes ou disponibles, est-il acceptable sur le plan éthique d'octroyer l'AMM à une personne en souffrance en attendant l'occurrence de tels changements sociétaux? Inversement, la mort est-elle réellement une alternative acceptable au manque de ressources ou à des conditions socio-économiques sous-optimales? La complexité inhérente aux demandes de l'AMM, TM-SPMI, est potentialisée par le fait que les experts ont des opinions divergentes concernant la conceptualisation de différents enjeux en contexte de santé mentale. Par exemple, jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir de consensus à savoir s'il est possible de se doter d'une méthode fiable et valide permettant de distinguer les personnes dont le désir de mettre fin à leur vie est symptomatique d'un trouble mental, de celles dont la demande d'AMM est rationnelle, réfléchie et conforme à leurs valeurs. En ce sens, il est essentiel que les professionnels de la santé, PS, usent de leur jugement clinique et procèdent à une analyse au cas par cas pour répondre aux demandes d'AMM, TM-SPMI. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Considérant le haut niveau de subjectivité, d'ambiguïté et d'émotivité relatif à chaque demande d'AMM, la complexité de la décision à prendre est caractérisée par l'incertitude. Quoique inconfortable, même douloureuse, l'incertitude demeure nécessaire. Morin affirme que la simplification de problèmes complexes, qu'il nomme la vision mutilante, se paie cruellement dans les phénomènes humains. La mutilation tranche dans les chairs, verse le sang, répand la souffrance. En réduisant des enjeux aussi complexes que ceux générés par l'administration de l'AMM, TM-SPMI, au fait d'être pour ou contre, une telle simplification se concrétiserait nécessairement au détriment du bien-être de la population. Selon lui, ce qui distingue l'humain de la cybernétique est sa tolérance à l'incertitude, aux contradictions, à l'imprécision. Autrement dit, à sa possibilité d'explorer le contenu de la boîte noire. Ainsi, la complexité inhérente aux enjeux relatifs à l'octroi de l'AMM, TM-SPMI, nous permet de préserver la sensibilité nécessaire pour réfléchir à ce débat qui, quoique source d'inquiétude et d'inconfort, nous oblige à remettre en question nos a priori, mais surtout à ouvrir le dialogue. Vous écoutez? Aide médicale à mourir et troubles mentaux, exploration des défis, des préoccupations et des enjeux éthiques associés. Un texte de Marie-Alexandra Gagné, paru le 4 décembre 2023 dans la Revue canadienne de bioéthique. Un soin intrinsèquement sensible et ancré dans une perspective d'autonomie relationnelle. L'AMM est un soin intrinsèquement sensible puisqu'il ébranle notre conception du bien et du mal, questionne le caractère sacré de la vie et notre droit, comme humain, d'en altérer la trajectoire normale. L'AMM redéfinit également les frontières de la médecine moderne. Jusqu'où peut-on aller au nom de la dignité de la personne, de son autonomie, de sa liberté de choix? À ce propos, Burnier affirme qu'il est presque impossible d'aborder des questionnements aussi fondamentaux que l'euthanasie avec le détachement requis. Nos propres valeurs et croyances influencent notre vision du monde, mais l'AMM questionne le sens que nous leur attribuons ainsi que leurs limites. Conséquemment, il importe de réfléchir aux enjeux qui découlent de l'AMM, TM-SPMI, non pas en tentant d'être objectif, mais en faisant preuve d'une subjectivité contrôlée, notamment en accueillant l'incertitude qui ne peut être dissociée des présentes discussions. L'AMM repousse les limites de l'autonomie en contexte clinique, mais réitère également son caractère fondamentalement relationnel. L'exercice de notre autonomie, ainsi que le sens que nous attribuons au fait d'être autonome, est influencé par nos relations interpersonnelles, nos expériences et le contexte dans lequel nous évoluons. Une personne en fin de vie peut demander l'AMM parce qu'elle ne souhaite pas être un fardeau pour sa famille, et ce, même en l'absence de pression ou d'influence externe de la part de ses proches. Dans le même ordre d'idées, un PS pour qui l'AMM va fondamentalement à l'encontre de ses convictions pourrait accepter d'administrer ce soin qu'il reconnaît être conforme aux valeurs de son patient. Être autonome, c'est la capacité de faire des choix en fonction de nos propres valeurs et de notre vision singulière du monde. En acceptant cette prémisse, nous acceptons également que notre vision du monde coexiste avec celle d'autrui, qui peut être différente, voire diamétralement opposée de la nôtre, aussi confrontant que cela puisse être. Toutefois, indépendamment de notre perspective quant à l'AMM, TM-SPMI, Il s'agit d'un soin indéniablement extraordinaire, pouvant avoir des répercussions psychologiques chez les PS qui participent à son processus d'administration. Même si l'AMM découle d'une demande libre et éclairée, le sentiment d'agentivité du PS qui cause activement la mort d'une personne exacerbe la sensibilité inhérente à ce soin. Si l'AMM, TM-SPMI, est confrontant sur le plan clinique et éthique, elle l'est d'autant plus pour ceux qui ont la responsabilité de l'administrer. À ce propos, Kramer fait la distinction sur le plan conceptuel entre « killing » et « letting die ». Dans les deux cas, même si la conséquence est la même, soit la mort, et que la personne y consent de façon libre et éclairée, mettre fin activement à la vie d'une personne est généralement plus difficile psychologiquement et moralement pour le PS que de retirer l'équipement médical qui le maintient en vie. En participant activement, intentionnellement et directement dans un geste qui cause la mort, le PS peut se sentir coupable d'être celui qui administre le soin, même éprouver de la détresse. Cependant, dans ce débat éthique complexe, nous n'avons pas à choisir entre le bien-être du patient et celui du PS, ni prioriser l'un au détriment de l'autre. L'AMM, spécialement pour les personnes dont le TM-SPMI est un soin engageant psychologiquement pour le PS qui doit l'administrer, autant sur le plan professionnel que personnel. Conséquemment, les PS devraient pouvoir bénéficier de ressources de soutien appropriées et d'avoir accès à des espaces dialogiques sécuritaires pour exprimer leurs inconforts et leurs préoccupations, au même titre que les personnes qui demandent à bénéficier de ce soin. La singularité inhérente à chaque demande et l'importance du dialogue. Qu'on le veuille ou non, l'AMM fait désormais partie de la culture et du climat sociopolitique québécois. Les patients ont toujours demandé à mourir, mais depuis 2015, les patients demandent l'AMM. Cette demande peut être raisonnée, réfléchie et conforme aux valeurs du patient, mais peut également ne pas l'être. Il peut exister ou non d'autres moyens efficaces et scientifiquement éprouvés pour pallier sa souffrance. Cette demande peut ou non traduire un symptôme d'un trouble de santé mentale. Cette demande peut correspondre ou non à nos valeurs personnelles et professionnelles ou à la trajectoire de soins que l'on a souhaité ou anticipé pour cette personne. Qu'il s'agisse d'un soin approprié sur le plan clinique ou non, pour le patient, une demande d'AMM traduit nécessairement une souffrance, un besoin, un ressenti, minimalement une préoccupation. Demander l'AMM n'équivaut pas forcément à un désir de mort, mais on ne peut nier que ce vocable fait désormais partie intégrante de notre identité collective. Certaines personnes demandent l'AMM non pas parce qu'elles veulent mettre fin à leur jour, mais parce qu'elles sont confrontées à une perte de sens et de contrôle en raison de la maladie qui les incombe. Nissim et ses collègues ont mis de l'avant, par l'entremise d'entrevues semi-dirigées, que les motifs les plus fréquemment soulevés par les participants qui ont exprimé un désir d'hâter leur mort étaient associés au fait de concevoir la mort comme une porte de sortie hypothétique à la maladie. À ce propos, l'un des participants a mentionné que « I have no desire to commit suicide, but I have no desire to take it out of my hands either. » Je n'ai aucun désir de commettre le suicide, mais je n'ai aucun désir de l'enlever de mes mains aussi. Ainsi, la conceptualisation de la mort comme option de dernier recours et non pas comme moyen immédiat de remédier à la situation peut s'avérer psychologiquement apaisante pour plusieurs personnes. Être en mesure de conserver un certain contrôle sur leur fin de vie et d'exercer leur autonomie décisionnelle contribuerait notamment à l'acceptation de la situation. Rodriguez Pratt et Van Leeuwen ont mis en lumière un constat similaire, soit celui que la volonté d'un patient de hâter sa mort est souvent intimement rattachée au désir de préserver son autonomie, sa dignité. Mais également, puisque la mort peut être une stratégie de conservation du soi authentique, celui qui est exempt de maladie. Bien qu'une demande d'AMM n'implique pas forcément un désir de mort, celle-ci traduit nécessairement un besoin singulier, une souffrance. Or, une attention trop importante à la finalité de l'AMM peut faire de l'ombre à la souffrance du patient, à son vécu expérientiel et, ultimement, à la manière qu'il considère optimale pour être apaisé. Précisons qu'ici, l'intention n'est pas de banaliser le caractère extraordinaire de ce soin, ni d'en faire la promotion. Au contraire, que l'AMM soit, ou non, un soin cliniquement ou éthiquement approprié, une telle demande illustre une souffrance proportionnelle au caractère extraordinaire du soin. Une discussion approfondie avec un PS compétent est donc absolument nécessaire afin de bien comprendre ce qui motive cette demande, d'explorer les alternatives possibles et, au final, de déterminer s'il s'agit bel et bien du soin qui répond à son besoin. Même si l'AMM est l'expression ultime de l'autonomie décisionnelle d'une personne, il n'en demeure pas moins qu'un soutien clinique approprié est fondamental afin que cette décision soit éclairée et conforme à ses valeurs. Une prise de décision partagée entre le PS et le patient permet une compréhension mutuelle de la souffrance de ce dernier, mais également de trouver un terrain d'entente en identifiant un traitement cliniquement approprié et qui répond aux besoins singuliers du patient. Conclusion. Depuis la légalisation de l'AMM en 2015, l'élargissement de ses critères d'éligibilité suscite énormément d'intérêt, autant sur la scène médiatique qu'académique. Au courant de la prochaine année, l'AMM sera élargie aux personnes vivant avec un handicap neuromoteur grave, aux personnes qui en feront la demande par le biais d'un consentement anticipé en prévision d'une inaptitude et aux personnes dont le TM-SPMI. Même si ces changements législatifs bénéficieront à plusieurs personnes pour qui l'AMM correspond à leurs valeurs et leurs besoins, en matière de fin de vie, il n'en demeure pas moins que de nombreux enjeux éthiques émergent de cet élargissement. Une des préoccupations majeures en matière d'AMM, TM-SPMI, est qu'il s'agit d'un soin que l'on puisse octroyer à défaut de c'est-à-dire, à défaut de services en santé mentale accessibles et de qualité, à défaut d'être en mesure de départager un désir de mort raisonné d'un risque suicidaire symptomatique, à défaut d'avoir accès à des conditions socio-économiques plus favorables. Cette préoccupation est tout à fait valide et mérite que nous l'adressions en tant que société. Nous avons collectivement légalisé l'AMM parce qu'il s'agit d'un soin qui répond aux valeurs et aux convictions de plusieurs personnes au Québec. Conséquemment, nous avons la responsabilité de nous assurer que l'AMM ne devienne pas un soin à défaut de, notamment en favorisant l'accès à des services en santé mentale et en réduisant, autant que possible, les inégalités sociales de santé. Rappelons qu'au même titre que nous n'avons pas à choisir entre le bien-être du patient et celui du PS, nous n'avons pas à choisir entre fournir des soins et services en santé mentale et la légalisation de l'AMM, TM-SPMI. Rien ne nous empêche de faire les deux. L'AMM est un soin qui est fondamentalement caractérisé par sa sensibilité, sa complexité et l'incertitude qui y est rattachée. Bien qu'il n'existe aucun remède à l'incertitude, la réflexion critique, le dialogue ainsi que l'essor des données probantes peuvent certainement nous aider à naviguer à travers les enjeux éthiques complexes que pose l'accès à ce soin. Dans le cadre de ce numéro, les auteurs partageront avec rigueur et nuance leurs réflexions à propos des enjeux relatifs à l'AMM chez les personnes dont le TM-SPMI. C'était Aide médicale à mourir et troubles mentaux, exploration des défis, des préoccupations et des enjeux éthiques associés. Un texte de Marie-Alexandra Gagné, paru le 4 décembre 2023 dans la Revue canadienne de bioéthique.